À vous de jouer avec Daniel Rosis.
Est une flopée de copains. Donc, il y a qui Salomé Raymond qui vient nous en chanter une vers 10h moins 10. Le docteur X, l'homme qui en connaît un rayon, qui vient nous parler de sa phonothèque aux avant, vers 35. Ce qui fait qu'on a une demi-heure ensemble. Bonjour Josepha Terribilini, on vous retrouve.
Bonjour Daniel Rosis, ça fait plaisir de vous retrouver.
Après une année Molière, on se demandait ce qu'on allait faire, on va faire une année Morax. C'est pas mal, non?
Ouais, ça change.
Restons vaudois. Bonjour Louis.
Bonjour.
Ayman et puis Edmond Vuillou.
Bonjour à tous, à toutes et aux autres.
Vous êtes le président d'une association qui s'appelle Bateau Lune. Cette association a engagé un metteur en scène qui en a un peu l'âme. Bonjour Jean Cholet.
Bonjour.
Et en échange des bons procédés, vous avez réengagé Edmond Vuillou pour jouer dans une pièce de sorte.
Oui, mais c'est parce que d'abord Edmond Vuillou a... Quand il s'agit de reprendre un accent vaudois, vous verrez, c'est formidable.
Ouais.
Et puis, je suis un long compagnonnage, Edmond et moi.
Chezeau sur Lausanne, les quatre doigts et le pouce de René Morax, ça commence tout bientôt, on en parle après ceci. Les musiciens du Louvre et Marc Minkowski. Alors, 400e de Molière, c'est fait. 150e de René Morax. Alors, pour quelqu'un qui consacre sa vie à l'étude du grand répertoire, Morax, ça parle encore un peu ?
Ça parlait de nom. C'est un nom, quand on a grandi, effectivement, dans le canton de Vaud, qu'on a déjà entendu, ne serait-ce que lié à certains lieux, comme le théâtre du Jura à Mézières. Voilà, mais c'est pas un nom qu'on connaît aussi bien que Molière, en tout cas, pour ma part. Alors que c'était un auteur éminemment connu en son temps, c'est-à-dire première moitié du XXe siècle, et qui est connu, en fait, pour des pièces plutôt historiques, plutôt sérieuse, mais là vous montez une comédie, les quatre doigts et le pouce, une petite farce. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette pièce? Est-ce que vous pourriez un peu nous la présenter, Jean Cholet?
Ben, en trois mots, bonjour. Il écrit cette pièce, au fond, pour une circonstance très particulière. Il travaille au Casino de Morges avec des machinistes, comme tout théâtre qui se respecte. Ces machinistes font leur travail très correctement. Ils montent, ils démontent, ils construisent, ils clouent, ils arrachent des clous, ils en plantent d'autres ailleurs, ils refont de la peinture. Et puis un jour, au fond, ils se disent, mais finalement, nous, on fait le petit boulot, on est les petites mains derrière, toujours dans l'ombre. Est-ce qu'on pourrait imaginer de passer à la lumière? Et il demande à Morax de bien vouloir écrire une pièce pour eux. Il est très surpris parce qu'au fond il a l'impression que bon, il y a des comédiens amateurs certes, mais enfin qui jouent depuis un certain temps, qui ont de l'expérience, qui sont capables de mémoriser toute une série de répliques et de les dire dans l'ordre et de les savoir par cœur. Et il a quelques doutes par rapport à eux, mais finalement il se laisse convaincre et il leur écrit une comédie C'est pas une comédie. Il leur écrit une tragédie. C'est une histoire d'amour qui finit extrêmement mal. Mais la manière dont il le joue, comme rien ne va comme prévu, ça devient une comédie formidable. Et ce qui est tout à fait étonnant avec cette pièce, c'est que elle a un peu plus de 100 ans maintenant. Et moi, ça fait 40 ans que je fais du théâtre. J'ai répété un nombre incalculable de spectacles. Je crois que je n'ai jamais autant ri en répétition que pendant ces répétitions des Quatre Doigts et le Pouce. Et au fond, on retrouve avec Morax ce qu'on a aussi parfois avec les auteurs classiques et Molière. C'est-à-dire, au fond, les grandes comédies, on a l'impression qu'elles vieillissent pas. Les Fourbris Capin, on refera la 110 000e version, ce sera toujours aussi extraordinaire. Alors que parfois des pièces plus classiques, en vers plus sérieuses, vieillissent plus difficilement. Et par exemple chez Morax, Aliénor, le roi David, quand on les remonte, on les adapte, on les raccourcit. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Je me rappelle encore quand j'ai monté Aliénor, Sophie Garda me dire, mais je peux pas dire ça. Je reviens à Romont et je dis même les pierres ont des regards humains. Je peux pas dire ça au premier degré. Ça a un tout petit peu vieilli, ce langage-là, alors que les Quatre Doigts et le Pouce, ça n'a pas pris la moindre rigueur.
Et une des choses qui aide à ça, c'est aussi qu'il y a deux niveaux. On parlait de Molière juste avant. Il y a quelque chose d'assez moliéresque. Il y a une pièce de Molière très connue qui s'appelle L'Impromptu de Versailles, où il se met lui-même en scène avec sa troupe en train de préparer un spectacle. C'est aussi très très drôle. Et il y a complètement quelque chose de ça dans cette pièce de René Morax, puisqu'on a en fait sur scène des comédiens qui doivent eux-mêmes jouer d'autres personnages. Donc on a une sorte de mise en abîme comme ça qui est assez délirante. Et
on voit constamment les coulisses et la scène en même temps, et le drame qui se joue en coulisses parce qu'on ne retrouve pas un accessoire ou je ne sais pas quoi, et les comédiens en scène qui improvisent, qui remplissent les trous, qui essaient de donner l'impression que tout est sous contrôle alors que tout est en train de partir en cacahuète. Voilà, c'est le comique de la pièce vient de là.
Alors, on entendait vos deux comédiens qui sont venus avec vous ce matin acquiescer par leur rire qu'on rit aussi en répétition. C'est vrai, mais vous dites ça pour faire plaisir au patron.
Non. Il y a une grande grâce au théâtre, c'est les fous rires généraux ou les fous rires partagés. Et quand c'est avec le public, c'est encore mieux. Mais ça pose un problème de continuité et de rythme. Mais non, on a eu de très très beaux fous rires, on en aura encore, immanquablement. Quand le chevalier fait une passe d'escrime et perd sa culotte parce qu'on en a aux essayages de costumes. Oui, alors c'est un peu facile, mais c'est des fous rires absolus. Et voilà, c'est les contingences.
Edmond Vuillou dans le rôle de Jules Grobetta. Un choix onomastique assez sympa. Et Miguel Fernandez, alors c'est pour montrer la distance avec un technicien qui vient de là-bas.
C'est ça, c'est au fond, non seulement il y a des machinistes, techniciens qui sont ici, mais il y a aussi le comique Gustave, qui lui est espagnol, bien sûr, et à qui on ne peut pas demander la lune, parce qu'il est espagnol, mais qui va mettre beaucoup de bonne volonté à essayer de faire quelque chose.
Louis Salimane, vous avez dû prendre l'accent alors?
Si, j'ai dû commencer à parler comme ça, et c'est parfois un petit peu difficile, mais je fais comme je peux, et puis je trouve ça très marrant.
On a encore le droit de faire ça aujourd'hui?
Non, on n'a plus le droit du tout, on n'a pas le droit de prendre l'accent pour se moquer d'un point de vue ethnique, de devenir honorablement connu sur la place.
Je préfère prévenir, je suis espagnol, pour les futurs procès, au cas où.
Ce qu'on voit avec ce que vous avez suggéré aussi, Jean Chalet, c'est que c'est une pièce qui est en fait très liée à son contexte de création, enfin qui est déterminée par les personnes que René Morax avait sous la main, qui lui vont demander cette pièce. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour jouer ça avec une autre équipe, en plus de comédiens professionnels? Est-ce qu'il faut faire des aménagements? Comment on a fait
très très peu d'aménagements. Je reprends mon exemple, les Fourbris Capin, vous pouvez faire une adaptation, mais au fond vous pouvez prendre le texte original, ça passera très très bien. Et là on n'a pas véritablement avons fait d'adaptation. La seule chose qu'on a faite, c'est créer un petit texte qu'on joue comme prologue, parce que les quatre doigts et le pouce, c'est extrêmement court, ça dure 50 minutes. Un petit texte qu'on joue en prologue et qui, au fond, donne le contexte de création. Ce qui permet à quelqu'un qui tombe de la lune et qui sait pas du tout pourquoi ces comédiens jouent si mal et confondent les didascalies et les répliques, ben, voilà, ils ont une petite clé de lecture pour commencer à ça. Et du coup, ça permet d'avancer en ayant tout le monde au même diapason. Mais sinon, on n'a pas vraiment fait d'adaptation, sinon que nous nous sommes donné la liberté, chaque fois qu'il y avait un truc invraisemblable qui se passait dans une impro, dans un raté, dans une réplique qui foire, de dire « Ah non, mais ça c'est génial, on va garder. » Et on a ajouté une série de choses comme ça, au fur et à mesure du travail.
On aimerait y être déjà, non, Josepha? Pourriez-vous nous faire un petit extrait?
On pourrait tout à fait vous faire un extrait entre la baronne, jouée par Edmond, et Miguel, qui joue le chevalier de Costa Rica.
Vele baronne, le plaisir de vous voir ferait lever un homme bien avant l'aurore.
Chevalier de Costa Rica, tout autre que moi serait flatté de vos assiduités. Mais je vous l'ai dit, cessez de me poursuivre comme vous le faites de déclarations que je ne saurais entendre.
Et ce langage de ma fille me surprend.
Effectivement, non, père. Mais je vous l'ai dit, on ne commande pas ses sentiments. Vous verrez toujours en moi une fille respectueuse et obéissante. Mais ne me demandez pas d'aimer, monsieur le chevalier Lopez.
De Costa Rica, madame.
Oui, c'est ça, le chevalier de Costa Rica. Ne me demandez pas d'aimer le chevalier de Costa Rica.
Je ne suis pas sûr de comprendre votre discours, madame.
Voyez, j'ai déjà eu bien du malheur dans ma vie. N'y ajoutez pas de nouveaux chagrins. Je voudrais, si vous étiez galant homme, que vous renonciassiez à moi.
Que je renonçasse? Voudriez-vous que je renonçasse à vous?
S'il vous plaît.
Mais vous ne connaissez pas ma passion, madame.
Grand Dieu, que me dites-vous?
Ça, très bien.
Voilà. Ce qu'on entend ici, on vous avait présenté Edmond Villoux comme l'interprète de Jules Crobetta, je crois.
Vaudois, on prononce pas le AZ, on dit Crobette. S'il vous plaît.
Jules Crobette. Mais dans la pièce interne, vous êtes donc la baronne,
Jules de Sainte-Luce.
La baronne.
Née de Froideville.
Alors, quels sont. Donc, vous avez deux personnages à jouer, ou plutôt un personnage qui joue lui-même un autre personnage. Oui. Quelles sont les difficultés
c'est plutôt sympathique, parce que faire un travesti en ayant présenté le modèle original, c'est plus confortable que faire un travesti sans référence au modèle original ou un rôle de paysan vaudois normal. Enfin, non, ils sont normaux, je vous rassure tout de suite. mais c'est vrai. Non, j'ai envie de dire deux choses. Donc, d'une part, on passe des années de conservatoire puis de vie professionnelle à effacer son accent vaudois. On va à Paris, on va à Marseille, et tout d'un coup, en moins d'un mois, c'est foutu. Voilà, maintenant on a tout rattrapé, on va tout recommencer à zéro, c'est vraiment pénible. Puis en même temps, moi ça me rapproche de mes grands-parents, de mes parents, de la veine paysanne dont je suis issu et dont j'aime être issu. Et puis en même temps, le travestissement, ben ça pose une vraie question. Et moi j'aime me travestir. Je suis comédien, c'est peut-être une des raisons, mais c'est vrai que à notre époque, ça n'est plus très original. On voit dans la rue pas mal de gens qui sont en robe. Mais là, en l'occurrence, l'exposer au théâtre sur le plateau, j'ai commencé par jouer Madame la tante Berthe dans un spectacle de Manta, et j'en suis maintenant à jouer la baronne. Ça fait des relations comme ça qui sont pour moi très plaisantes. Donc c'est pas difficile à faire. C'est plutôt enthousiasmant et drôle.
Je fais juste une toute petite parenthèse. On va donner déjà les dates et les trucs, parce que y en a qui doivent partir au marché, comme ça, ils n'ont pas besoin de... Hein, oui, non, mais c'est important, on est là pour ça.
Alors, on commence à Carouge, dans le canton de Vaud.
Deux heures.
Avec deux heures, le vendredi 3 et le dimanche 5, le vendredi 3 à 20h et le dimanche 5 à 17h.
Après, c'est à Chezeaux.
Après, ce sera au bateau Lune à Chezeaux, à partir du 8 mars jusqu'au 24, en tout cas, peut-être un peu plus tard.
Oui.
Et puis ensuite, ce sera au pantographe à Vevey, donc ce nouveau nom pour le théâtre qui s'appelait Les Trois Quarts précédemment, à partir du 28 jusqu'au 9 avril, et puis une ultime, et on est très content de cette ultime, ça nous permettra de clore le projet de manière brillante, à Morges, au Théâtre du Casino, là où la pièce a été créée en 1902, le 27 avril.
Magnifique, alors si on veut réserver, on va sur bateaulune.ch.
Non. Non, on va sur monbillet.ch.
Mais si on veut en savoir plus, on va sur bateaulune.ch. Non, c'était, vous avez raison, monbillet.ch.
Ça, c'est pour la billetterie.
Et puis pour en savoir plus, pour voir des images, on va sur bateaulune.ch. Et c'est là que vous avez fait un super boulot avec votre attaché de prod, puisque vous nous avez permis d'entendre René Morax, qui à l'époque s'exprimait sur sa pièce.
Absolument. Non,
on se l'écoute ensemble.
Charles Apothéloze, puisque vous avez vous-même mis en scène et joué les quatre doigts et le pouce, j'ai pensé que vous étiez tout indiqué pour présenter cette pièce. Alors vous allez nous dire pourquoi et quand René Morax a-t-il écrit les quatre doigts et le pouce.
Morax m'avait dit lui-même, il avait écrit sa première œuvre, La Nuit des Quatre Temps, qui fut jouée à Morges. Et les machinistes de Morges, qui étaient eux-mêmes comédiens amateurs, avait mis tant d'ardeur et de plaisir à monter La Nuit des Quatre Temps, à la préparer techniquement, que Morax, pour leur faire plaisir, a écrit Les Quatre Doigts et le Pouce, une pièce, comme vous savez, pour rôle masculin exclusivement. Et depuis, la pièce est jouée partout dans toute la Suisse romande, et particulièrement pendant la guerre, pendant la mob de 14 et pendant la mob de 39. Je crois que toutes les compagnies vaudoises ont joué les quatre doigts et le pouce.
Pour leur soirée de compagnie.
Pour leur soirée de compagnie et pour la population des villages dans lesquels ils étaient cantonnés.
Bon, et les faunés ont monté les quatre doigts et le pouce en quelle année?
Ils l'ont monté dans l'hiver 55-56, dans le cadre du spectacle qui fut consacré à la fête des vignerons de la côte, cette parodie de la fête des vignerons de Vevey. Et alors nous avions présenté le spectacle dans le cadre d'une soirée villageoise, à laquelle assistait le public, avec Tombola et tout ce qui s'ensuit. Et la première partie du programme était Les Quatre Doigts et le Pouce.
Et si je ne me trompe, René Morax lui-même a vu cette mise en scène, a vu la pièce montée par les faunés, et il est venu même assister à des répétitions.
Oui, il assistait en tout cas à la dernière répétition, la veille de la générale. C'est une soirée exténuante pour les comédiens. En effet, Morax, qui avait plus de 80 ans, était plus frais que nous, il nous a fait jouer la pièce trois fois d'affilée, montant sur la scène, descendant, mimant tous les rôles, indiquant des jeux de scène. Il trouvait que nous étions trop mous. Nous qui avions à l'époque 25 ans, que nous croyions des athlètes, eh bien, Morax nous a remontré, il a complètement crevé, mais le résultat fut que le spectacle fut fortement amélioré, grâce à lui.
Spectacle amélioré grâce à Morax qui vient expliquer à Potello, c'est lui qu'on entendait, comment mettre. Vous vous inspirez encore de ce type de souvenir? Il y a une tradition vivante autour de ça, orale
Autour de la version d'Apotello.
Vous avez connu des gens qui ont bossé avec, vous l'aviez vu, je sais pas.
Alors,
vous avez...
Non, moi je l'ai pas vu. Alors,
vous repartez du texte.
Moi, je suis de 54, ouais. Donc en 55, je ne l'ai pas encore au théâtre.
Ouais.
Mais en revanche, je veux dire, Boulanger qui jouait là-dedans, ou Milo, ou Mizet, ou qu'est-ce qu'il y avait encore
Aplanal.
Il y a tous des gens avec lesquels j'ai travaillé par la suite, ouais, absolument.
En tout cas, on en a beaucoup parlé, c'est vrai que ça fait partie du grand patrimoine mondial et néanmoins vaudois. Josepha, ça vous touche d'entendre des archives comme ça?
Oui, énormément. Parce que, encore une fois, on parle beaucoup de, voilà, des grands classiques, on en a beaucoup parlé l'année passée, et moins de ces auteurs qui sont pourtant extrêmement importants. René Morax, c'est l'un des premiers auteurs de théâtre de Suisse romande. Charles Apothéloze a aussi été extrêmement important par ici. Et voilà, est-ce que pour vous, c'est important de garder vivant ce souvenir-là, ces textes-là, de les remonter? C'est des textes qu'on voit moins souvent, malheureusement, aujourd'hui.
Alors, pour moi, c'est très important pour deux raisons. D'abord, moi, je trouve que notre peuple vaudois, qui est touchant à plein d'égards, est capable aussi d'une ingratitude par rapport à ceux à qui il doit quelque chose d'important, de spectaculaire. Vous vous souvenez peut-être que lorsque le Théâtre du Jura a fêté son 50e anniversaire, ils ont commandé une œuvre originale, très très bien, G.O.H. Blanc, Le Buisson Ardent, on a mis des gros moyens pour faire quelque chose de bien, et puis 8 jours avant la première, on s'est dit, oh mon de chien, complètement oublié d'inviter Morax. Et c'est très révélateur. On n'est pas loin de la création et on avait déjà oublié. Et moi, je trouve que Morax, c'est effectivement un auteur, c'est un metteur en scène, c'est un homme qui avait une énergie incroyable, mais c'est aussi quelqu'un qui a su donner aux Vaudois le courage de se dire on peut produire du théâtre ici. On n'est pas condamné à accueillir des productions françaises. J'ai rien contre les productions françaises, bien entendu. Mais je veux dire, on est capable de produire du théâtre ici. Et ça me paraît d'autant plus important que un des problèmes des Vaudois, c'est ce manque de confiance. Où on dit toujours qu'il ne peut, ne peut. Et ça s'arrête là. Donc tout à coup, avoir quelqu'un qui booste l'esprit vaudois et qui permet de créer un répertoire original, c'est absolument formidable.
Et c'est vrai qu'en lisant, pour ma part, j'ai lu Les Quatre Doigts et le Pouce, je l'ai pas encore vu sur scène, mais rien qu'en le lisant, de lire ce parler vaudois qui est tout d'un coup là mis en valeur, c'est assez jouissif. Ça fait plaisir à lire voilà Chenoy, des mots que j'entends ma grand-mère dire depuis des années. Est-ce que c'est cette langue-là, elle a un peu évolué ou enfin ça c'est peut-être pour les comédiens aussi. Est-ce que c'est naturel d'incarner cette langue aujourd'hui? Est-ce que...
Alors, pour ma part, je pense que dans les jeunes générations, ça se perd un peu, mais vous faites un tour en campagne, on retrouve ça assez facilement. Hein, que ce soit chez les viticulteurs ou chez les paysans de la terre vaudoise, il y a de très, très jolis accents. L'intérêt, c'est qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, et il y a toutes sortes de... On écoutait à Potello, cette espèce d'accent un petit peu précipité. C'est tellement charmant et tout. Ça me fait bosser à Jean Villargile aussi, qui avait des histoires vaudoises magnifiques et qui prenait aussi des accents variés. Je pense que l'accent vaudois se porte bien. Vraiment, aussi bien que l'accent provençal, les choses comme ça. Mais c'est vrai que la télévision... en particulier, à niveler un peu tout ça et que les jeunes gens parlent plutôt avec l'accent des quartiers nord de Marseille ou des quartiers pauvres de Lyon que l'accent de Biolay-Rulla ou de Botoflan, pour citer un village fictif qui était ici même dans cette radio.
On dit que la radio avait gommé ça aussi, mais en fait, elle avait l'antidote, c'était le quart d'heure vaudois.
Exactement, ouais. Le quart d'heure vaudois, ouin ouin, enfin, il y a toute une série de réalisations qui cultivaient cet accent. Et cet accent, c'est marrant, Edmond a tout à fait raison de dire qu'il se perd un peu dans les nouvelles générations, encore que, il y a 8 jours, j'étais dans un service funèbre, et à la fin du service funèbre, la responsable des pompes funèbres vient, après la locution du pasteur, et mesdames, messieurs, on arrive gentiment à la fin de ce service. J'avais l'impression qu'elle faisait partie des quatre doigts et pouces, qu'elle avait répété toute la journée et que ça lui avait échappé. Et en fait, c'est quelque chose qu'on entend encore relativement souvent chez nous. Ou l'expression « regarde voir » ou « viens voir » ou « écoute voir », ce qui est encore, entre guillemets, pire ou meilleur.
Alors, le meilleur, c'est « pense te voir
». Moi, j'adore, c'est la Chenoy. J'ai jamais entendu ça avant et je trouve que ça résume tellement bien la chose. La Chenoy.
Espèce de Chenoy. J'entends bien, moi, cette pièce, Les Quatre Doigts, elle pousse dans votre grand parcours, Jean Cholet. Mais bon, sous le bateau Lune, vous êtes un peu spécialisé quand même dans un théâtre un peu social, comme ça, qui pose des questions d'aujourd'hui, hein, la situation de la femme, la paysannerie, les choses. Comment ça, le racisme ou d'autres choses. Comment ça s'inscrit alors dans la vision de ce tout petit théâtre comme ça,
ouais. Alors, moi, je dirais deux choses. D'abord, effectivement, vous avez raison, les thèmes de société, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup et que j'entends bien continuer. Mais, je veux dire, on peut pas faire une programmation sur toute une saison qu'avec des thèmes de société, en plus avec des thèmes souvent graves. Là, à la fin de la saison, on se désabonne du théâtre en disant « je vais faire autre chose ». Donc moi, j'essaie de faire alterner, aussi bien que je le peux, des productions plus légères, voire chorégraphiques ou musicales, et puis des sujets de société un peu trapus. On vient de sortir de Gisèle Halimi, donc ouais. on était chez Gisèle Halimi, puis maintenant on passe aux Quatre Doigts et le Pouce. Ensuite, ça va être Le Prénom et Froufrou les Bains. Donc on voit bien que j'essaie d'avoir une production qui permet de s'adresser un peu à tout le monde. Essentiellement aussi par le fait que Le Bateau Lune est situé dans une région où d'abord il n'y a pas de structure théâtrale professionnelle et puis que j'ai envie de pouvoir y rencontrer au fond l'ensemble de la population qui est dans ce Gros de Vaud ou cette région lausannoise.
Je me tourne vers Miguel Fernandez une dernière fois parce que j'adore cet accent. Alors, peut-être encourager vos concitoyens à venir aussi partager cet esprit vaudois.
Il faut venir voir la pièce parce que c'est vraiment très important, parce qu'on a beaucoup de plaisir à travailler là-dedans, et je vous invite tous à, avec une joie immense à venir nous voir le prochainement. Voilà.
Eh bien, merci à tous. Alors, Louis Alimane, Miguel Fernandez, et puis vous jouez quel rôle? Le chevalier.
Je joue le chevalier, oui.
Voilà. Edmond Vuillot, le gros bête qui va faire la comtesse, la duchesse.
La baronne de Saint-Luce.
Et Jean Cholet, scénographe, lumière, mais qui est aussi un peu à double dans cette histoire, parce que vous jouez votre propre rôle. Non, je rigole, vous avez d'autres noms, des fois, quand vous faites certaines choses. Les quatre doigts le pouce de René Morax, merci Joséphine, vous irez?
Bien sûr, je serai dans le vrai public.
Vous allez prendre votre grand-mère, qui va être heureuse de retrouver la chenoille.
Ah, très bonne idée, oui. Ouais.
Ce serait assez bien.
Sera contente.
Les quatre doigts le pouce de René Morax, Carouge, début mars, et puis, on l'a dit, du côté du Bateau Lune. Jean Cholet, continuez de vous inviter dans cette émission.
Merci beaucoup.
En train de se faire.
À très bientôt.
Merci Joséphine.
Merci, merci Joséphine.
C'est bon ordre de continuer un peu de faire de la radio.
Hyper sympa.
Bon, je vous garde. Allez, hop, c'est parti. Le Dr X, l'homme qui en connaît un rayon, nous a posé un disque sur nos platines. Thank you. c'était le final tempo, j'allais dire pipa, mais non, c'est giga, vous avez une écriture docteur, j'adore ça, tempo di giga, allegro vivace de la sonate à tre, l'opus 62 de monsieur Casella. Casella, mais quel est le prénom de monsieur Casella?
Alfredo.
Alfredo. Ça n'est pas partie des grands du répertoire, Mara. Hein?
Non, je n'avais jamais entendu parler.
Ah bon. D'accord, pourtant, bah, c'est normal, il est mort.
Oui, puis vous n'avez pas donné le nom des interprètes.
Mais je vais le dire, c'est le trio Parnassus. Tapez-moi pas, docteur.
Le trio Parnassus, alors, Michael Gross au violoncelle.
Wow.
Wolf Dieter Streicher au violon.
Ah, Streicher. C'est pas mal pour le violon, hein.
Oui.
Streicher, ça veut dire quoi?
Et Madame Kachoum, qui ne distribue pas des bonbons, mais qui nous fait une fleur dans le piano.
Madame Kachoum.
Kachou.
Ah, Kachou. Alors, je comprends pourquoi vous vouliez que je donne les noms. C'était pour faire des gags.
Des blagues caramba.
Des blagues un peu caramel, ouais, caramba.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé de terrible à Alfredo Casella?
Alors, c'est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste italien qui est né en juillet 1883 à Turin. Il est issu d'une famille de musiciens. Son grand-père était premier violoncelliste du théâtre San Carlo de Lisbonne.
Wow.
Et ami de Paganini.
Ah, le fameux Paganini.
Première leçon de piano donnée par sa mère. Il entre par la suite au Conservatoire de Paris à l'âge de 13 ans. Et il sera l'élève de Gabriel Fauré et de Louis Diemer. Parmi ses condisciples du très beau monde, puisque il y a Maurice Ravel et Georges Enesco.
Il était sur les bancs d'école avec Ravel et Enesco.
Oui.
C'est génial.
Et oui.
Vous avez des types célèbres avec vous à l'école?
Peut-être qu'ils le seront plus tard.
Ah oui, ça,
doute.
On ne sait pas. Et vous avez été à l'école avec des types de célèbres, bien, docteur?
Ma mémoire me joue des tours.
Ah, voilà. Mais ils ont tous gradé à l'armée, vos copains d'école.
Pas forcément.
Non, parce que vous étiez dans une génération de gens sérieux, quoi, quand même. Hein. Vous avez fait des belles carrières.
Mais vous êtes vous-même célèbre, Dr. X.
Oui, sous un autre nom.
Écoutez, moi, si vous continuez, je m'en vais. Hein,
Non, mais vous êtes connu sous un autre nom, Dr. X. Alors, en tout cas, sur l'espace 2, vous êtes une
star.
Bien sûr.
Et
puis, vous êtes connu pour ceux qui connaissent la littérature scientifique, d'autres noms. Mais on ne révélera, même sous la torture, on ne dira jamais votre nom, docteur.
Mais c'est bien. Alors,
c'est bien.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, Casella, lui, était avec Enesco. Et puis, vous avez retenu qui était l'autre? Ravel. C'est ça.
Nom peut être un indice. On le retrouve à trois reprises parmi les membres du chauffeur du quatuor Mandelring.
Ah bon? Votre nom?
Oui.
D'accord, ok. Bon, bah d'accord. Alors, mais il n'y a pas de sirop à gagner, n'appelez pas.
Il n'y a pas de sirop à gagner.
Ni de café, non, rien.
Tout à fait.
Alors, il est à Paris, tout jeune.
Alors, pendant toute sa vie, il aura une attirance particulière pour la musique de Debussy. Il dirige en 1912 les concerts populaires du Trocadéro, toujours à Paris.
Ouais.
Il enseigne le piano au conservatoire. Il fréquente ses contemporains, Stravinsky, De Falla, Busoni, Strauss, Debussy. Et il devient l'assistant d'un autre pianiste extrêmement célèbre qui est Alfred Cortot.
Ah, Alfredo et Alfred.
Voilà.
C'est deux copains.
Tout à fait. De retour à Rome, il enseigne à l'Académie Sainte-Cécile. Il écrit de la musique de ballet, des opéras, trois symphonies, six concertos, de la musique de chambre, de la musique pour piano. Et tout jeune d'orchestre, il fait connaître la musique de Mahler au public français.
Incroyable, lui qui a tellement aimé la musique française.
Alors c'est un homme qui a une ouverture d'esprit assez remarquable parce que il s'intéresse aussi à la musique de Vivaldi et de Monteverdi, ce qui n'était pas très habituel
à cette époque.
Il fonde la Société italienne de musique moderne.
Wow.
Et il aura l'occasion de se rendre aux USA et de diriger les principaux orchestres américains.
En bateau, je pense, à l'époque. Hein.
Vraisemblablement,
oui.
Le bateau avait un énorme avantage. Quand on pense à l'opéra, il y a une période, par exemple, si on prend les opéras de Wagner, dans les années 60-70, où c'était pas très très brillant. Et pour une raison bien simple, c'est que dans les années 20, les grands chanteurs de l'époque, les Melchior autres, ben quand ils allaient aux USA, ils allaient en bateau.
Ils avaient
le temps de répéter et de reposer leur voix. Tandis que maintenant, avec l'avion, c'est clair que... un soir on chante à Los Angeles, le lendemain on chante à Berlin.
Ouais. Mm-hmm. Voilà. Et puis alors pendant l'avion on chante aussi, on se met au fond de l'avion et on chante toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Ils font les fous dans les avions les chanteurs,
souvent,
quoi. Comme quand on
souvent.
Apprenait d'école au fond du bus quoi, on chante des conneries quoi.
Alors Casella meurt à Rome à 63 ans, donc relativement jeune, en mars 47, des suites d'un cancer dont les premières manifestations seraient apparues quelques années auparavant. Je vous propose, pour terminer notre entretien...
Une musique, d'Alfredo.
C'est-à-dire la Gavotta, troisième mouvement de la Serenetta per Piccola Orchestra, opus 46 bis.
Mais vous roulez tellement bien les airs, docteur.
Mais vous n'avez pas encore dit les interprètes.
Par le Festival Orchestra di Villa Marigola, sous la direction de Giuseppe Garbarino.
Garbarino, on dirait la marque du mascarpone. C'est, voilà. Et puis, dites-nous aussi la marque du disque, parce que c'est en italien aussi.
Nuova Era.
Era, voilà, voilà, voilà. Alors moi, j'en sais pas beaucoup plus sur Alfredo Casella, si ce n'est que c'est un Italien qui a vécu en France, qui a beaucoup aimé la musique française, qui a eu des types célèbres avec lui comme coéquipier d'école, et puis qui a fait découvrir aux Français la musique de Mahler, et qui a aussi beaucoup aimé deux compositeurs italiens qui n'étaient pas à la mode à l'époque, Vivaldi et Monteverdi. Est-ce que c'est bon, j'ai réussi l'examen ?
Bravo.
Ouais. Parce que moi, je trouve qu'une bonne émission de radio, c'est quand c'est fini, puis qu'on est capable de raconter ce qu'on a entendu, c'est que c'était bien. Non ?
Oui. Mm-hmm. Alors, on se retrouve au marché ?
On se retrouve au marché.
Moi,
avec
je pense que ce serait l'occasion de goûter quelque chose que j'adore, qui est le sabayone.
Ah, le sabayone, si, d'accord. Alors, moi, je vais venir au marché aussi pour goûter quelque chose que j'adore aussi, c'est le Bellini. C'est ce que c'est que Bellini, c'est un jus de pêche écrasé comme ça avec.
Je connais le compositeur, mais je connais pas.
Ah non,
pas
non, non, le Bellini. Alors c'est, ça a été inventé par le même type qui a inventé le Carpaccio à Venise.
Ah bon?
Sauf qu'il appelait ça un Bellini. Alors c'est un jus de pêche écrasé avec un petit peu d'alcool, mais je sais plus quoi. Mais enfin, Châtel, il connaît. Lui, alors Châtel, s'il y a bien un type qui connaît tous les cocktails du monde, c'est Châtel, quoi. Marin, vous avez l'âge de boire de l'alcool maintenant.
Oui.
Ouais, ça fait tellement longtemps que vous êtes chez nous que vous savez même plus quel âge vous avez. À tout bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Salomé, Anaïs, Sophie, Marguerite, Raymond, Doppelsa.
Sopelsa.
Sopelsa, voilà. Tu vois, je me suis mal ré. Doppel, Doppelsa. Doppel, double ça. Bon. Salomé, Anaïs, Sophie, Marguerite, Raymond, Sopelsa. C'est pas un quatuor ni un quintet, c'est une seule et même chanteuse, mais elle est auteur. Autrice, on dit compositrice, ça fait deux interprètes, ça fait trois, un peu poète, écrivain. Et puis elle nous fait l'amitié de venir nous voir régulièrement. Salomé, tu aimes la poésie aussi?
Oui.
Elle t'inspire?
Oui, énormément.
Mais c'est toi qui l'écris ou c'est celle des autres que tu reçois?
Ben, les deux. Mais j'écris aussi beaucoup, surtout des conseils de vie positifs. Ça, j'écris pour peut-être un jour un livre de ça.
Ah, d'accord. Mais pas ça, c'est autre chose que de la poésie.
Oui, c'est vrai.
Mais la poésie, elle agit directement sur la vie. Mm-hmm. On dit le poète, c'est pas celui qui chante la pluie, c'est celui qui fait pleuvoir. C'est marrant hein, comme définition.
C'est beau.
Qu'est-ce que tu as choisi comme poésie aujourd'hui?
J'ai choisi un poète qui s'appelle Rumi.
Rumi, oui.
Je vais le traduire de l'anglais.
D'accord, mais lui-même, il est, c'est quoi, iranien, Rumi.
Par hein? Là-bas, ouais.
Oui.
Alors, je dis, que disent mes yeux? L'autre dit, garde-les sur le chemin. Et je dis, mais... Parle-moi de ma passion. Et dit, garde-le en feu, garde-le brûlant. Et je lui demande, parle-moi de mon cœur. Et il répond, dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Et je demande, parle-moi de la douleur et la souffrance. Et il me répond, garde-le précieusement. Les blessures sont le lieu où la lumière peut entrer.
Génial. Rumi. Alors, il a un nom extrêmement compliqué, si on prend son nom complet. Jalal al-Din Muhammad Balkhi, ou Rumi, Galal al-Din Rumi. Il est né à Balkhl, une région de culture perse. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était iranien, mais la ville dans laquelle il est né est actuellement en Afghanistan. Puis, c'est pas tout jeune, hein, parce que ça date... Il n'y avait pas de Suisse à l'époque. Ça date de 1207. Tu vois, c'est à l'époque, il y a encore colline à Lausanne, on est en train d'essayer de construire une cathédrale, et lui, il écrit tout ça.
Ouais.
C'est beau, tu l'as trouvé comme ça?
Mm-hmm. Tu vois, je fais des cours en ligne de cinéma, je vais d'ailleurs y aller sur place à Los Angeles. Dès que, ouais. Et puis en fait, c'est une des profs qui est merveilleuse, qui s'appelle MJ Carmi, qui est aussi actrice, et qui nous a lu ce poème, et puis ça m'a tellement parlé que j'ai voulu le partager avec toi aujourd'hui. Avec tout le monde, tous les auditeurs.
Avec moi, puis les autres, avec lui.
Et puis avec Sacha aussi.
Sacha. Perse. Il y a un mot en français qui a le même sens que perse, puis qu'on ne sait pas. Ah bon, il y a les yeux pères. C'est les yeux, hein? Et puis, P-E-R-S. Et puis, la pêche. C'est en fait, en latin, on dit la pomme qui vient de Perse, et ça donne persica, donc la pêche. C'est assez rigolo, hein? Toi, tu as de la pêche?
Oui.
L'énergie, c'est comme ça qu'on dit?
Oui.
Et puis, le poème que tu vas aujourd'hui nous donner, il est dans cette lignée du soufisme et du mysticisme de Rumi, ou bien il va partir vers quelque chose de plus énergique?
Ben, la chanson, elle va être, elle parle, oui, c'est assez lié avec, c'est assez imagé, en fait, c'est vrai.
Ouais.
Oui.
C'est quoi le titre?
C'est justement ça sera en anglais, mais en français, c'est Les yeux de diamant. Donc, Diamond Eyes.
D'accord. On va respecter le silence. Tu te lèves tranquillement, tu marches, tu prends ton casque, tu t'installes. On va laisser le silence s'installer, et puis tu commences à jouer quand tu veux.
Diamond eyes in the day you looked at me. I felt what I'm feeling in my chest. Diamond eyes in the day I met you, it feels like I met an angel out of here. Hold on. Diamond, what are you doing to me? Your diamond eyes are far too pretty. I could stare at you forever, 'cause your eyes reflect who you are. Diamond eyes, since the first night we shared, it feels the one full of sparks. stars. Her life today, always full of light that you can only find in a diamond. Oh, diamond, diamond, what are you doing to me? Your diamond eyes are far too pretty. I could stare at you forever, 'cause you're out loud, but in my head I'm saying something my lips and my mouth can't say, but my heartbeat tells everything.
Thank you.
Magnifique sonate en si bémol majeur, Deutsch 960, Allegro, un choix de Mitsu Kare pour À vous de jouer sur Espace 2. Nous avons reçu, il était très drôle, en vaudois et en duchesse, Edmond Vuillou, Louis Allison, en espagnol et en cavalier, Jean Cholet, metteur en scène des Quatre Doigts et le Pouce, Josefa Terribilini, qui m'a aidé à interviewer cette joyeuse troupe dans une réalisation de Sacha Unger, qui a reçu également Salomé Raymond, et puis le Docteur X, l'homme qui en connaît un rayon.
Tous les dimanches, Matine vous donne rendez-vous entre 7h et 9h pour le plus musical des levées de soleil. Un réveil radio en habit du dimanche avec le meilleur de la musique sacrée et des chroniques colorées.
Matine, une émission de David Mechtri, tous les dimanches dès 7h sur RTS Espace 2. À réécouter sur rts.ch/audio.
RTS Culture, la culture avec des grands C.
Et la culture avec des grands C, c'est tout le temps, y compris le dimanche et... En accord avec l'air du temps, effectivement, Matine, cette émission spirituelle qui s'est appelée longtemps Initiale, et puis avant qui s'appelait Climat, que nous avons animé successivement avec David Mechtri, et puis Bertrand Descaillés, et moi-même il y a fort longtemps, fidèle au poste pour chanter les louanges de qui vous voudrez sur Espace 2, il est 10h.